lien qu'il y a entre l'importance de l'identité hébraïque et qu'on est en train d'étudier à propos de Hever, qui est donc non que c'est anime d'Aver alta psychote. Donc je reprends l'importance qu'il y a entre l'identité hébraïque et puis le lien qu'il y a avec la dispersion des nations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence d'ordre proprement naturel entre la nature de l'identité hébraïque qu'il faut entendre à l'échelle collective et l'identité des nations qui représente ce que vont devenir les différentes souches humaines. Alors là, c'est un problème extrêmement vaste. Je vais l'éclairer simplement par deux remarques aujourd'hui. On aura le temps de les reprendre par la suite. Et puis dans le reste du temps du cours, si vous avez des questions, vous les reposerez la semaine d'après. Dans le reste du cours, nous allons essayer de commencer à comprendre pourquoi il a fallu cette sélection d'identité à partir d'Abraham pour arriver à Israël. En attendant, il faut que vous lisiez tous ces textes qui parlent de l'histoire d'Abraham depuis le début de la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. Relisez-les toujours pour vous familiariser surtout. Le plus rapidement possible, de les lire en hébreu, bien entendu, de telle sorte que vous soyez frappé par la forme dont le texte se sert. Et puis, vous avez énormément de temps d'étude à revenir pour apprendre ce qu'il y a dans le contenu de façon plus précise. Et alors, nous allons avoir une première parenthèse, une première échappée sur cette confirmation de la dimension de l'universel qu'il y a dans l'identité hébraïque. Et très paradoxalement, je vais essayer de l'étudier par rapport à la période de l'identité juive qui suit. Très, très paradoxalement, on s'aperçoit que le fait que le peuple d'Israël ait pu se maintenir dans l'existence, dans la dimension juive, alors que s'il obéissait aux lois des autres sociétés, il aurait disparu. Et c'est d'ailleurs un sujet d'étude chez beaucoup d'historiens, chez beaucoup de sociologues, qui se posent la question de savoir comment se fait-il qu'il y ait une exception aussi particulière. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple qui a achevé sa période historique normale, la nation des Hébreux, puisse quand même se survivre à lui-même à travers une condition anormale, qui est la condition que j'ai décrite tout à l'heure, dans la condition juive de l'exil. Et on est surtout sensible, lorsqu'on étudie l'histoire des Juifs, à la difficulté de cette histoire, à la somme de persécutions, de pogroms, de destructions que ce peuple a subies, qui est exceptionnelle par rapport à l'histoire de n'importe quel autre peuple, même si ça et là, il peut y avoir des choses analogues. Mais on est moins sensible au fait que cependant, il a survécu et il a traversé un si long temps et une situation aussi difficile. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors très paradoxalement, c'est le fait d'être capable de cette mutation d'identité de l'hébreu en juif qui a sauvé l'identité hébraïque, quel que soit le prix à payer. Alors je vais vous le décrire de la manière suivante. C'est que l'identité juive apparaît comme un éclatement de l'identité hébraïque et qui prend la dimension ethnique, la dimension sociopolitique de toutes les nations du monde. Alors très paradoxalement, l'existence juive elle-même dévoile le caractère universel de l'existence hébraïque. Pourquoi un juif peut être n'importe qui d'autre à la fois? C'est parce qu'originellement il est hébreu. Est-ce que l'idée est claire? Okay. C'est-à-dire que c'est précisément la dispersion juive qui est la preuve de l'universel hébreu. Seulement, très paradoxalement d'ailleurs, seulement avec une grande différence, c'est que chaque identité juive à la fois ponctuellement est très spécifique, très spéciale. Alors que l'identité universelle de l'hébreu est à l'échelle collective de l'humanité. Si vous voulez, l'hébreu, c'est le juif à l'exposant de l'humanité tout entière. Alors que le juif, c'est l'hébreu à l'exposant de telle ou telle nation particulière. Un juif est toujours trop différencié pour porter vraiment l'universel de l'hébreu, parce qu'il ne porte que le visage particulier de la nation dont il est le juif. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est trop spécifique. C'est d'ailleurs la grande différence entre Abraham et Abraham. Abraham, c'est l'hébreu de la nation araméenne. Alors c'est trop spécifique pour être vraiment l'hébreu. Il faut qu'il se dégage de cette écorce qui l'a protégé, mais de cette écorce de l'identité araméenne pour redevenir hébreu. Une petite parenthèse. Vous devez savoir d'ailleurs que pendant le temps, depuis toujours, la langue familiale de l'étude chez les rabbins, c'est l'araméen. Et pourtant, lorsqu'un rabbin parle araméen, il est seul capable de le faire d'ailleurs, c'est pas l'hébreu qui parle. Habituez-vous à cette différence. Il y a une sainteté de l'hébreu qui n'est qu'approximative dans l'araméen. L'araméen, c'est presque comme l'hébreu. Il y a d'ailleurs certaines prières, il y a des raisons pour ça qui doivent être dites en araméen et pas en hébreu. Malgré tout, la Torah est en hébreu. L'étude de la Torah est en araméen, ça vous habituerez à cela, mais la Torah est en hébreu. Et alors, l'araméen est un cas particulier, c'est cette identité d'exil des hébreux, la seule, où tous les hébreux à la fois avaient la même. C'est pourquoi ça reste co-naturel à la collectivité d'Israël. Alors que les autres identités juives, les juiveries, comme on dit en sociologie, postérieures, ont été très partielles. On fait partie ou de la juiverie ashkénaze, ou de la juiverie sfarade, de la juiverie yéménite, et encore c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais que d'une à la fois. C'est très paradoxalement, on peut avoir telle ou telle influence de juiverie cousine, si vous voulez, mais c'est très spécifique. Et maintenant, nous sommes dans un temps, après 2000 ans, où toutes ces juiveries se regroupent, se connaissent, s'entrecroisent, se rencontrent. Et il y a d'ailleurs sociologiquement énormément de problèmes extrêmement passionnants à étudier qui procèdent de cela. Vous êtes déjà de la génération d'après la rencontre. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, si j'ose dire, de l'étonnement que pouvait être la première fois que des Sfaradim ont vu des Ashkenazim, ou la première fois que des Ashkenazim ont vu des Sfaradim. C'est un choc. Imaginez un Sfarad d'Afrique du Nord qui était habitué à une histoire où les Juifs, c'était à peu près, avant la guerre mondiale, c'était en toute l'Afrique du Nord, il y avait peut-être 150 000 Juifs, entre Algérie, Tunisie, Maroc, un peu plus quand même. Et alors, pour nous, c'était ça, le peuple juif, et puis, il y avait un mythe, on parlait de Juifs européens. Imaginez quel mythe ça pouvait être. Des Européens qui mangeaient cachère, qui mettaient des filets. La mythologie absolue. De la même manière, et puis subitement après la guerre, on s'est rencontrés. De la même manière que les Ashkenazim, lorsqu'ils pensaient aux Juifs d'Afrique du Nord, ils pensaient à un mystère, des Arabes juifs. Qu'est-ce que ça pouvait être? Et d'ailleurs, ça continue, c'est pas fini, mais enfin, ça a beaucoup changé. On s'habitue à l'idée que ça existe. Mais vous voyez, chaque juiverie, c'est très spécifique. Et je connais, j'ai encore beaucoup d'amis ashkénazes très, très proches, mais il faudra attendre leurs petits-enfants pour que ça change. Ils sont persuadés que des Sfarades, c'est des Arabes juifs. L'idée que ce soit des Juifs juifs, c'est difficile à admettre pour eux. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience déjà de tel ou tel côté. Je me rappelle quand ma fiancée parlait de moi. Ma fiancée était ashkénaze, enfin c'est ma femme. Elle parlait de moi, c'était la stupéfaction chez les ashkénazis à quel point. Il te frappe. Imaginez un arabe. En tout cas, pour revenir, je vous dirai pas la réponse, mais enfin, pour revenir au sujet, et ce qu'il faut comprendre, c'est cette spécificité du caractère propre à chaque juiverie qui reflète la spécificité propre à chaque nation. J'insiste là-dessus parce que ça veut dire qu'on passe d'un coup de l'universel au cosmopolite. Apparemment, c'est la même réalité, l'ensemble des hommes, mais définie de manière catégoriquement différente. L'identité universelle, depuis la tour de Babel, est devenue un idéal abstrait. La réalité est cosmopolite. Et alors, les Juifs greffés sur les nations sont cosmopolites, mais ils se connaissent comme universels parce que d'origine hébraïque. Vous voyez la difficulté. C'est en tant qu'hébreu qu'ils sont universels. En tant que juifs, ils sont spécifiquement indexés à tel ou tel paysage culturel, spirituel, intellectuel et de civilisation. C'est clair ? Et alors, avec toute l'histoire de la colonisation, c'est très compliqué. Par exemple, je parlais tout à l'heure des juifs nord-africains qui se prennent pour des Européens. C'est le résultat de la colonisation. De vous décrire ça comme ça, qu'est-ce qui est arrivé aux juifs nord-africains ? En réalité, Israël, c'est en Asie. Alors, nous sommes des Asiatiques qui, après un long voyage en Afrique, se sont pris pour des Européens. Je ne sais pas si vous voyez le genre. Je ne sais pas, il faut que vous découvriez cela. Israël, c'est en Asie. C'est une Asie mineure, mais en reste une Asie quand même. Alors, imaginez de dire à un Nord-Africain qui se prend pour, j'allais dire, un Niçois, au Niçois qui m'a dit France, pour un Européen, qu'en réalité, c'est un Asiatique. Je ne sais pas si vous réalisez. Tout ce qu'il faut récupérer comme identité. Bien, je reviens. Vous savez qu'Israël est en Asie, vous ne savez pas. Non. Eh bien, nous avons donc là une indication extrêmement importante. Il faut se dégager de la gangue spécifique de telle ou telle juiverie dont nous sommes originaires pour retrouver l'identité hébraïque. En fait, ce n'est pas du tout souhaitable d'oublier l'acquis culturel de ces voyages d'exil. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Par exemple, dans notre cas, la culture française est une très haute culture de civilisation. Ce qu'il faut découvrir, c'est que ce n'est pas la nôtre. Et il faut être reconnaissant à la France de nous l'avoir communiqué. Mais c'est un cadeau. Et un cadeau, on dit merci. On ne se l'approprie pas comme si c'était le vrai propriétaire qui est l'étranger. J'ai souvent entendu des juifs en France dire à des goyim qu'ils étaient plus français qu'eux, que les juifs étaient plus français qu'eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça peut vouloir dire. Eh bien, réfléchissez à tout ça, parce que tout ça, ça pèse sur notre histoire. Et alors, il ne s'agit pas de quitter la culture française en claquant la porte. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Au contraire, il faut savoir apprécier le cadeau qu'on a reçu. Mais, entre-temps, se ré-hébraïser. Un dialogue entre un juif et un français. Qu'est-ce que c'est que ce café, là ? Et en général, les Français sont chrétiens. C'est quelque chose de très ambigu. C'est un juif qui se prend pour un Français, qui parle à un Français qui se prend pour un juif. Ça, c'est un chrétien. C'est très, très ambigu. Tandis qu'un dialogue entre un Hébreu et un Gaulois, ça, c'est clair. Il faut s'identifier, tout simplement. Et d'ailleurs, les Français sont très honorés quand ils s'aperçoivent que les Hébreux connaissent le français au moins aussi bien qu'eux. Ça les honore. Mais il n'y a pas cette ambiguïté d'appropriation de l'identité d'autrui qui est le cas de l'identité d'exil. Est-ce que c'est clair, tout ce que je vous dis ? Vous verrez donc à la longue à quel point il faut changer de registre culturel pour arriver à penser en hébreu l'identité juive. À ce moment-là, l'identité juive s'évanouit. Elle devient une pièce de musée. Elle devient un sujet d'ethnographie. Il va y avoir à l'université, il y a déjà des études faites sur les juiveries de telle ou telle époque, les juiveries de tel ou tel genre. C'est des études d'ethnographie. C'est déjà la préhistoire. Oui, on anticipe un peu, mais c'est l'histoire de vos descendants que je vous raconte déjà. Quand ils penseront à vous, ils penseront aux dinosaures de la préhistoire. Pour revenir en tout cas au sujet, toute cette histoire nous est racontée déjà une première fois dans l'histoire de la famille d'Abraham. Eh bien, je voudrais vous donner une image qui éclaire un peu cette idée. C'est que c'est le caractère cosmopolite des Juifs qui est la preuve de l'universel de l'hébreu. Il n'y a qu'un hébreu qui est capable d'être n'importe quel goy à la fois ou par permutation circulaire. Un Juif peut être ou allemand ou français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un Juif, le même, peut être ou allemand ou français. Un Juif peut être yéménite ou hongrois. Un juif peut être du Groenland ou de l'Afrique du Sud. Et chaque fois avec un patriotisme local, total et entier. La preuve, les juifs français. Il n'y a pas plus français que les juifs français. Eh bien, découvrir tout ça. D'ailleurs, les goïms le ressentent. Et devant quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que c'est mystérieux, alors on est toujours sur ses gardes. C'est pourquoi les goïms ressentent qu'avec les juifs, il y a une identité particulière, bizarre et inquiétante, qui est que on est devant un mystère. Bien, alors il y a une image dans le Zohar qui dit ceci, que quand Dieu a créé l'homme, le premier homme, s'est vu dans le miroir, dans son miroir, et puis l'image du premier homme était unifiée. Et puis voilà que la faute a fait que le miroir s'est brisé. Alors imaginez un miroir jeté à terre, il se brise, il y a des éclats de miroir, chaque éclat reflète le visage originel, mais mutilé, caractérisé d'une certaine manière. Et oui, les nations, c'est le résultat du miroir brisé. Oui, la différence entre l'universel et le cosmopolite. Est-ce que c'est clair un peu cette image? Bien. Alors je vais reprendre un schéma. Si nous résultons, on posera des questions qui se présentent. Mais en tout cas, préparez les locations pour la prochaine fois. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je pensais à autre chose. Bon. Je reviens donc à la question que je voulais étudier aujourd'hui. On commencera à l'étudier aujourd'hui. Et puis donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous lirez les textes correspondants. Ça a dû vous frapper que nous avons trois patriarches. Alors d'abord, je vais mettre la question en évidence. On est tellement familier au fait que nous avons trois patriarches que la question qui va se poser à nous ne nous frappe pas. Comment se fait-il que nous ayons trois patriarches? Et ils ne sont pas des sosies, ce n'est pas les mêmes. Abraham, ce n'est pas Isaac, Isaac, ce n'est pas Jacob. Leur histoire montre qu'ils ont une manière très particulière d'être tzaddik de la Torah, d'être le juste que la Torah cherche. C'est trois manières d'être juste radicalement différentes. Il y a d'ailleurs un Midrash qui raconte que, par la nature, naturellement, ils se ressemblaient comme des sosies. C'est un Midrash qui parle d'Abraham et d'Isaac. Et que Abraham a demandé par la prière la vieillesse de telle sorte qu'on puisse le distinguer d'Isaac. Quand on voyait Isaac, on croyait voir Abraham. Quand on voyait Abraham, on croyait voir Isaac. Et alors Abraham a demandé la vieillesse. On reprendra ce Midrash un jour. Il y a des vertus qui sont le propre des vieillards et des vertus qui sont le propre de l'adolescence. Mais ça, on étudiera ça une autre fois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans leur identité de tzaddik, ils ne sont pas interchangeables. Or, comment se pose la question? C'est que toute tradition humaine est fondée par un fondateur. Que ce soit une nation, que ce soit une religion, que ce soit un mouvement politique, un mouvement philosophique, il y a un fondateur derrière. Comment se fait-il que l'identité Israël ait trois fondateurs et que les trois sont nécessaires? Et vous devinez déjà, je vous rappelle, le problème qu'il y a derrière, c'est que tant qu'on n'arrive pas à Jacob, qui reçoit le nom d'Israël, il y a donc quatre étapes. Abraham, Isaac, Jacob, Israël. C'est quand Jacob est vraiment fils d'Isaac, fils d'Abraham, qu'il reçoit le nom d'Israël. Eh bien, il y a quatre étapes, il y a quatre niveaux. C'est que tout l'ensemble de la famille d'Abraham n'est pas Israël. Et que l'ensemble de la famille d'Abraham, c'est pas Stan les nations. Entre les nations et Israël, il y a la famille d'Abraham. On étudiera surtout deux dimensions de cette famille d'Abraham, c'est l'islam et la chrétienté, qui est entre les nations et Israël, qui sont entre les nations et Israël, mais il y a d'autres dimensions. Je vous les ai énumérées une fois, et on les reprendra par la suite. Il n'y a pas que Ésaü et Ishmaël. Et il y a d'autres dimensions de la famille d'Abraham qui ont instauré des rivalités à Israël. Et nous sommes en but, à travers toute l'histoire et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps messianique, à ces rivalités, des approximations d'identité d'Israël par rapport à Israël. Alors nous allons commencer à étudier aujourd'hui la raison pour laquelle, a priori, il était nécessaire que se produise cette sélection d'identité. Il était nécessaire que nous ayons trois piliers de l'identité d'Israël, trois fondateurs de l'identité d'Israël. Alors je vais vous le dire très rapidement, si c'est nécessaire, je me lèverai pour vous faire un schéma au tableau, mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. On va reprendre la première équation à laquelle on était occupé depuis le début du récit d'histoire humaine, la relation des deux frères entre eux, l'un et l'autre. Et nous nous rappelons que le mot de frère avait disparu du sujet, du récit, quand Caïn avait tué Abel, vous remarquerez souvent, de frère, va revenir avec Abraham. À partir du moment où commence l'histoire d'Abraham, le mot de frère et le mot de sœur vont revenir à profusion. En fin de compte, on pourrait définir tout ce récit historique de la Bible de la manière suivante, c'est la recherche d'un fils capable d'être frère. Et on verra que ça va en fin de compte apparaître dans la famille Jacob. Cette difficulté d'être frère de frère, elle va s'atténuer de plus en plus à partir d'Abraham jusqu'à Joseph et ses frères. C'est quand on arrive à Joseph et ses frères qu'on voit que les frères, en fin de compte, sont des frères. Et il faut comprendre toutes les difficultés par lesquelles ils passent. Ismaël et Isaac n'arrivent pas à être frères. Jacob et Ésaü n'arrivent pas à être frères. C'est Joseph et ses frères qui vont résoudre l'équation de fraternité. Bien, c'est clair jusque-là. Alors, cette équation de fraternité, je vous l'avais formulée de cette manière, je le répète rapidement pour ce qui n'était pas là au début, sujet-objet. Vous vous rappelez ? Dès que l'un est en relation avec l'autre, il s'instaure en sujet qui transforme l'autre en objet. Mais l'autre était un sujet. Donc l'échec, c'est quand on ne sait pas réintégrer la dignité de l'autre comme sujet. Et l'échec de Caïn et Abel, c'est Caïn a transformé Abel en objet. Il l'a tué. C'est plus un quelqu'un, c'est quelque chose. Ça, c'est l'échec de la relation de fraternité. Je vous ai appelé aussi la relation d'altérité, la relation à l'autre. Eh bien, nous allons voir qu'il faut deux vertus de base, absolument vraies toutes les deux, mais la difficulté, c'est qu'elles sont contradictoires pour résoudre ce problème. La première vertu, c'est la vertu de charité. La vertu de charité protège l'autre. La deuxième vertu, c'est la vertu de justice qui compense ce que laisse découverte la première vertu de charité. La vertu de justice protège moi. C'est-à-dire, je suis soumis au devoir de charité pour l'autre et l'autre est soumis au devoir de charité pour moi. Alors j'explique un peu cela et on verra pourquoi il faut arriver à un troisième terme pour résoudre ce problème. Voilà, vous avez déjà été familier à cela, qu'il y a deux vertus fondamentales, toutes les deux vraies, mais il faut être sensible au conflit qu'il y a entre eux, à la tension qu'il y a entre ces deux vertus. Alors je vais vous les définir très simplement, vous me direz si c'est suffisamment clair. Qu'est-ce que ça veut dire la charité ? C'est donner à l'autre uniquement parce qu'il est l'autre, sans chercher à savoir s'il mérite ou pas. Si je cherche à savoir s'il mérite ou pas, c'est déjà de la justice que je cherche. Est-ce que c'est clair ? Alors en hébreu, chesed, c'est gratuit absolument. Ah oui, la vertu de chesed, c'est faire passer l'autre avant moi. Donc on n'arrive pas là, c'est pas vraiment chesed. C'est des stratégies qui se font prendre pour chesed. Si j'ai un intérêt à chesed, c'est pas chesed. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu souffres, ça me fait du mal, j'ai pitié pour toi, cette pitié, c'est pas vraiment de la pitié, c'est de la pitié pour moi, c'est parce que je souffre. Hein? De te voir souffrir. Vous avez compris, c'est pas si simple que ça. Hein? Chesed pur, c'est très rare. C'est héroïque. Un vrai chassid, c'est très rare. Alors, comme ça a été Abraham, et on le verra dans son histoire. Mais vous voyez, Abraham n'est pas encore Israël. Pourquoi ? Parce qu'il manque l'autre vertu. On va voir qu'Abraham est le héros de Chesed et que ça. C'est-à-dire, il n'est sensible dans le monde qu'à cette vertu-là. Il ne connaît Dieu que comme celui qui donne. Pas comme celui qui demande le prix de ce qu'il donne. Ça, c'est Tzedek. Ça, c'est le din. Ça, il faudra Isaac pour ça. Alors, doucement, doucement, je suis en train de vous les distinguer. Okay? Et ce qu'on va apprendre, ce qui est important à apprendre, c'est que l'un est le père de l'autre, que l'un est le fils de l'autre. Vous voyez, c'est un parallèle entre les principes de vertu et l'histoire que nous allons découvrir. La difficulté, c'est que quand je suis occupé à chesed, je viole din. Quand je suis occupé à être charitable, je viole la justice. Apprenez bien ça par cœur. Et quand je suis occupé à être juste, je viole la charité. Donc apparemment, le problème moral est insoluble. Il faut une révélation pour le résoudre. L'homme est incapable de le résoudre par ses propres forces. Il ne peut être que ou charitable ou juste, mais moral vraiment. Il faut qu'il soit les deux. Or, comment être les deux à la fois ? Comment être les deux à la fois ? Si je suis Abraham, je ne suis pas Isaac. Si je suis Isaac, je ne suis pas Abraham. Il faudra arriver à Jacob pour arriver à ce mystère surhumain de quelqu'un qui est à la fois Isaac et Abraham. Ça, c'est Jacob. Alors, c'est pour ça que c'est lui qui est nommé Israël. Vous voyez, on va dans l'ordre. Hein. D'abord, la vertu de Chesed. Mais s'il n'y a que la vertu de Chesed, ce n'est pas encore Israël. Retenez bien tout cela de la manière dont je vous l'exprime, dans l'ordre dont je vous l'exprime. Abraham n'est d'Israël qu'à posteriori de Jacob. Isaac n'est d'Israël qu'à posteriori de Jacob. Tant qu'on n'arrive pas à Jacob, Abraham, ça pourrait être le père d'Ishmaël. Tant qu'on n'arrive pas à Jacob, Isaac, ça pourrait être le père d'Ésaü. J'ai bien compris que c'est Jacob qui, a posteriori, fait que Isaac et Abraham sont d'Israël. Mais dans l'ordre, il faut d'abord la vertu de charité. Et une fois que cette vertu de charité est fondée, alors va se poser le problème de la naissance d'Isaac. Comment faire naître Isaac ? Comment le fils du juste de la charité peut naître ? Et on voit qu'il ne peut pas naître. C'est une difficulté insurmontable. Il va falloir toute une stratégie de Dieu pour faire naître Isaac quand même par miracle. Parce que de la charité ne peut procéder que la charité. Comment de la charité peut procéder le principe du juste de la justice ? Vous suivez cette difficulté ? C'est pourquoi la Torah nous raconte pourquoi c'est si difficile pour Isaac de naître. Il faut un miracle extraordinaire. Mais la Torah n'a pas pour objectif de raconter les miracles. C'est pourquoi elle en parle comme en passant. Ce qu'elle a pour objectif, c'est de nous raconter la naissance d'Isaac. Pas de nous raconter le miracle. Mais le miracle de la naissance d'Isaac est un miracle inimaginable. Relisez le texte, vous verrez à quel point ça dépasse tout ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle mythologie. Sarah, à l'âge où elle a, est capable d'enfanter. Ça contredit toutes les lois de la nature. C'est Maïmonide qui a posé la question. Et pourquoi la Torah ne met pas l'accent sur un tel miracle ? Il ne passait pas l'objectif de la Torah de raconter les miracles. Seulement, il faut savoir que si Isaac est né, c'est avec un miracle extraordinaire, qui dépasse encore une fois ce qu'on peut trouver ailleurs. Imaginez de quoi il s'agit. Sarah, à son âge, pouvoir avoir un enfant. Et c'est arrivé quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a cette difficulté que Isaac, le tzaddik de Minat Hadin, naisse d'Abraham et Sarah. Abraham peut enfanter n'importe quel fils d'Abraham. Mais enfanter Isaac, ça c'est insurmontable. Il faut que Dieu intervienne pour que ce soit possible. En fin de compte, Isaac est né. Bien. Et alors, ce qu'on cherche, c'est, dans la descendance d'Isaac, le fils d'Isaac, capable d'être et fils d'Isaac et fils d'Abraham. C'est-à-dire, en tant que fils d'Isaac, homme de la rigueur de la justice, mais en tant que fils d'Abraham, homme de la charité. Ça, Ishmaël ne l'est pas. Il n'est que fils d'Abraham. Ésaü ne l'est pas. Il n'est que fils d'Isaac. Jacob seul va faire la preuve qu'il mérite le nom d'Israël. C'est clair maintenant ? Alors on va voir comment ça se passe dans l'histoire. Et vous allez avoir un parallèle, je vous demande de bien y réfléchir, ce que la Torah nous raconte dans l'identité des engendrements de la famille d'Abraham. Nous allons voir comment ça va se passer dans l'histoire qui nous entoure. Eh bien, que d'Ishmaël, l'autre fils d'Abraham, ait procédé de l'islam, on est très très familier. Ce qu'il faut découvrir, c'est que Ésaü a procédé à la chrétienté. Ça, on est beaucoup moins familier à cela. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement aujourd'hui, mais on y reviendra. On y reviendra parce qu'on n'est pas du tout familier de la culture contemporaine, à savoir que la chrétienté descend d'Ésaü. Nous savons, par une filiation très précise, mais surtout, je vais vous l'expliquer dans le contenu des choses. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement de deux manières. D'abord, historiquement. C'est quand la Judée était sous la domination de Édom, les Iduméens, que le christianisme est apparu. Et en effet, la Judée était conquise par Rome, qui avait installé une dynastie des Iduméens à la tête de la Judée, au temps du deuxième royaume de Juda. Nous avons entendu parler de Hérode, qui est le roi de la Judée au moment de l'apparition du christianisme. C'est un Iduméen qui est sur le trône de la Judée. Or, les Iduméens sont les descendants d'Ésaü. Il y a donc historiquement une alliance entre Rome et Édom, et c'est de cette alliance entre Rome et Édom qu'est né le christianisme contre la Judée. Voilà, ça c'est une donnée historique à laquelle vous réfléchirez, et c'est la raison pour laquelle il y a une telle identification dans la tradition rabbinique entre Rome et Édom. Édom, c'est la descendance d'Ésaü, et c'est finalement la civilisation romaine qui va incarner le génie de l'identité Édom dans sa rivalité contre Jacob, Israël. Alors vous voyez, le christianisme, c'est Ésaü se prétendant Israël à travers la civilisation.